deuxième partie de notre interview de Jacques Capla, anthropologue et agronome, sur le phénomène d'industrialisation de la bio. Après avoir fait un tour des acteurs principaux de ce phénomène, nous allons tâcher de présenter des outils qui doivent permettre de combattre un système qui tend à décrédibiliser la bio. Voilà, je le présente comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation déjà? Est-ce que vous avez l'impression que, quelque part, le fait d'autoriser des productions, ou en tout cas la labellisation bio de produits qu'on pourrait considérer comme industriels, est-ce que ça n'a pas tendance à décrédibiliser la démarche globale de l'agriculture biologique?
Oui, on peut dire que le fait qu'il y ait une bio à minima, une bio très très... comment dire, une bio qui se limite à supprimer la chimie et qui ne remette pas en cause l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, c'est un danger. Donc effectivement, je pourrais dire oui, le développement d'une bio industrielle peut décrédibiliser la bio. En même temps, pour moi, c'est pas forcément la crédibilité et ce problème-là ne vont pas forcément ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une tendance naturelle. Enfin, naturelle, je sais pas, mais c'est une tendance malheureusement dans nos sociétés occidentales marquée par l'approche capitaliste néolibérale et par un certain égoïsme. Il est malheureusement classique qu'une filière émergente essaye d'être récupérée. Enfin, que des gens essayent de la récupérer. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des dynamiques de développement d'une bio-rabais. D'un conventionnel sans chimie qu'on peut appeler bio-industriel, c'est inévitable en fait. Et pour moi, c'est important de distinguer la bio des fondateurs, la bio exigeante, et cette bio-là. C'est important que les consommateurs, que les citoyens comprennent que c'est pas parce qu'il y a une bio industrielle que ça diminue l'intérêt de la bio. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font des bêtises que ça diminue l'intérêt des gens qui font des bonnes choses. C'est pas parce que certains physiciens ont des idéologies d'extrême droite, parce qu'il y en a, que ça discrédite la physique. Enfin, évidemment que non. Et donc, le fait qu'il y ait dans la bio des démarches cyniques, des démarches de concentration capitalistique et d'accaparement des marchés par des multinationales, ça remet pas en cause la bio dans son ensemble. Et donc dans cette, j'entends souvent cette idée que la bio industrielle est en train de décrédibiliser la bio. Je trouve ça dommage d'avoir ce raisonnement, parce que le fait qu'une bio industrielle ne fait que prouver que la bio est quelque chose qui a de l'avenir. Si les gens cyniques essayent de récupérer un marché, c'est bien que ce marché est intéressant. La seule vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour empêcher qu'ils y arrivent. Comment est-ce qu'on fait pour que la vraie bio garde sa place, augmente sa place et aille subvertir le système agro-industriel?
Mais justement, vous posez la question, quelle réponse vous pouvez apporter à ça? Voilà.
Alors, il y a plusieurs manières. D'abord, il faut réancrer la bio dans ses fondamentaux, à la fois dans la compréhension et dans son fonctionnement. Donc dans la compréhension, pour moi, c'est vraiment important, et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui, parce que c'est vraiment important d'expliquer au public, d'expliquer aux citoyens, aux consommateurs, que l'agriculture bio, c'est pas une agriculture simplement sans chimie, que c'est une autre démarche agricole, diverse, qui a donné lieu aussi à la permaculture. La permaculture, c'est un courant de la bio au départ. Ce qu'on peut appeler agroécologie paysanne, quand on veut pas être dans les démarches de labellisation. Bref, cette démarche-là, c'est une démarche agronomique et il faut le faire savoir. C'est vraiment important de re-ancrer les fondamentaux de la bio. Et puis, c'est important aussi de réancrer la bio dans les filières courtes, le plus possible. De redonner ce lien entre consommateurs et agriculteurs. Par les AMAP, par les systèmes de vente directe, par les marchés, tout ce qu'on peut... construire de façon à réduire les intermédiaires, parce que les filières courtes, c'est ça, c'est de réduire les intermédiaires. On peut très bien avoir une filière courte à 1000 km. La proximité, c'est pas la filière courte. L'idéal, c'est d'avoir les deux, bien sûr. Et donc, chaque fois qu'on le peut, essayons de raccourcir les filières et essayons de rapprocher les filières. Et donc, ça, c'est des initiatives locales, c'est des initiatives de magasins locaux, c'est des initiatives d'AMAP, c'est des initiatives de citoyens qui s'organisent pour aider les agriculteurs à avoir ces démarches-là. Et pour moi, c'est vraiment important de prendre conscience que la responsabilité, là, elle est dans les mains des citoyens. Les paysans, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont paysans, ils sont pas marchands. Donc, si on veut modifier le commerce, c'est aux citoyens de se prendre en main. Et c'est aussi d'aller vers des magasins spécialisés qui ont des exigences qui vont beaucoup plus loin que le règlement bio européen. Ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a des étapes qui sont plus de l'ordre du militantisme, qui sont plus de l'ordre d'essayer de changer le cadre, d'essayer de soutenir des alternatives. Ça va être, par exemple, l'épargne solidaire. Si on a de l'épargne, plutôt que de la mettre dans une banque classique qui va généralement l'utiliser pour des projets pas très écolos, on peut essayer de rejoindre des structures d'épargne locale, comme les Cigale, qui sont un truc assez ancien, et puis il y a plein d'autres systèmes maintenant, pas assez malheureusement, pour pouvoir prêter à des projets à taille humaine. Parce que des projets industriels, ils trouvent sans problème des banques qui veulent bien leur prêter des sommes importantes. Parce que les banques, elles veulent prêter beaucoup d'argent, parce qu'évidemment, derrière, elles ont beaucoup d'intérêts et beaucoup de retours. Mais les banques, elles n'aiment pas prêter des petites sommes à des petits projets. Et donc, les petits projets ont beaucoup de mal à trouver des financements. Et donc, l'épargne solidaire peut aider à ça. Même chose, même logique, hein, c'est, vous connaissez peut-être Terre de Liens, qui est une association qui cherche finalement à récolter l'épargne solidaire, mais ciblée, en l'occurrence, sur l'acquisition de terres, de fonciers. Où on va avoir des collectifs qui vont acheter du foncier de façon collective et ensuite le louer à des personnes qui veulent s'installer en agriculture biologique. On peut travailler sur le... Alors là, c'est carrément un autre niveau, le fait de changer les règles. Changer les règles parce qu'aujourd'hui, les règles sont défavorables à la bio et défavorables aux pratiques les plus exigeantes de la bio. C'est ça qui est paradoxal. Aujourd'hui, un agriculteur qui ne pollue pas va être obligé de vendre plus cher pour avoir un bon revenu parce qu'il est défavorisé dans le système des aides. Tout à l'heure, je disais que la politique agricole commune a aidé la bio par les aides spécifiques à la bio. En revanche, la politique agricole commune n'aide pas l'évolution globale de l'agriculture vers la bio. Parce que la politique agricole commune donne une rente de situation à des pratiques agricoles qui sont catastrophiques pour l'environnement, pour l'emploi, pour le climat, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que dès lors qu'on a des aides importantes données à des pratiques néfastes, ça veut dire que ces pratiques néfastes bénéficient d'une distorsion de concurrence en leur faveur, grâce à ces aides, et donc elles peuvent être moins chères que des pratiques bénéfiques à l'environnement. On marche sur la tête. Aujourd'hui, si on prend par exemple simplement la question du coût de la pollution de l'eau. Alors ça, c'est même un sujet qui est indépendant de la politique agricole commune, mais c'est la même chose. Ça s'ajoute. Les pollutions agricoles de l'eau induisent des coûts qui ont été estimés à 2000 euros par hectare et par an. Enfin, entre 800 et 2000 euros par hectare et par an, pour être plus précis. Mais on tend vers les 2000. Je parle bien des coûts des pollutions de l'eau dues à l'agriculture. Hein. J'enlève toutes les pollutions de l'eau qui sont dues à autre chose. Il y a eu des études là-dessus depuis 5 ou 6 ans. 2000 euros par hectare et par an, c'est considérable. Si on donnait aujourd'hui 2000 euros par hectare et par an aux agriculteurs pour qu'ils passent en bio, non seulement ils passeraient en bio facilement, mais la bio coûterait moins cher que Lidl, Leader Price, etc. C'est-à-dire que la bio coûterait normalement moins cher que le conventionnel le moins cher. Si elle coûte plus cher, c'est parce que ces coûts de pollution de l'eau sont payés non pas par l'achat du produit, mais par les infrastructures de dépollution, par la facture d'eau, etc. Et tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de dispositions comme ça qui défavorisent en fait les pratiques vertueuses. Et ce qui est terrible, c'est que les agriculteurs, ils ne seraient pas contre le fait de changer. Moi, il m'est arrivé de donner des conférences face à des agriculteurs conventionnels, par exemple, les maïsiculteurs en monoculture de maïs, à qui je disais, vous savez bien que la monoculture de maïs, c'est une aberration agronomique. ils pouvaient pas faire autrement que de dire ben oui, effectivement. Et quand je leur disais, mais si on vous donnait les moyens d'avoir une diversité de cultures au lieu de faire que du maïs, et que ces diversités de cultures vous rapportent autant que le maïs, est-ce que vous seriez d'accord pour changer? Ben, la réponse était oui, bien sûr. Si on pouvait gagner autant en faisant autre chose, on ferait autre chose. Même chose dans des régions de monoculture de vignes, où des viticulteurs conventionnels m'ont dit, mais moi, si j'avais les moyens de passer en bio, de remplacer un tiers de mes vignes par autre chose pour faire une mosaïque de culture et arrêter les problèmes de maladie et de gagner autant, je le ferais. Donc en fait, les agriculteurs, ils sont prêts à changer. Le problème, c'est que pour gagner de l'argent, tout le dispositif de la politique agricole commune, des coûts de la pollution de l'eau, du coût du travail, etc., ne leur permettent pas de changer. Et là, c'est l'autre élément sur lequel il faut agir. C'est un élément qu'on peut appeler politique, mais politique au sens général. C'est pas forcément politique uniquement au sens électoral. C'est changer l'ensemble du cadre économique et réglementaire et des aides, quoi.
Oui, j'ai le sentiment que justement cette question politique, en particulier sur la question de la PAC, qui est actuellement en débat, en chantier au niveau de la Commission et du Parlement, hein, puisqu'il y a des négociations qui sont en cours en ce moment, c'est, à mon sens, c'est peut-être un enjeu extrêmement important, fin un peu technique aussi pour beaucoup de gens, mais où là, il y aurait éventuellement le plus à faire pour améliorer justement la reconnaissance du travail, pas uniquement de production agricole, mais aussi de cette reconnaissance du travail fait par l'agriculture biologique pour l'environnement.
Complètement. La PAC pourrait être un très bon outil. Par la reconnaissance des pratiques de la bio, mais aussi la reconnaissance des pratiques intermédiaires, parce que tout le monde ne va pas passer en bio du jour au lendemain. On peut passer en bio rapidement, hein, en fait. Hein. S'il y avait une volonté politique générale, on pourrait passer une grande, grande partie de l'agriculture française et européenne en bio en quelques années, en fait. Ça paraît fou, mais c'est une question de coordination des mesures. Quand on laisse les agriculteurs passer en bio en se débrouillant, quand on dit aux agriculteurs « changez de pratique, mais débrouillez-vous dans un cadre qu'on ne change pas », évidemment, ça prend du temps, évidemment, ça se fait tout doucement, et ceux qui le font sont des gens convaincus. Et je retire encore une fois mon chapeau, parce qu'il faut du courage pour changer dans un cadre qui est défavorable au changement. Mais quand on change le cadre, le changement peut aller très vite. Pour autant, il faut quand même des étapes intermédiaires. Donc il faut reconnaître les pratiques bio, il faut aussi reconnaître les pratiques intermédiaires, les pratiques agroécologiques en général, pour permettre aux agriculteurs d'évoluer progressivement. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est pas très difficile à faire. On pourrait très bien, dans la PAC, et c'est prévu plus ou moins, ça a été envisagé dans la nouvelle PAC qui est en cours de discussion, d'avoir des systèmes de paiement pour services environnementaux qui permettrait de dire à un agriculteur au lieu de toucher une aide à l'hectare quoi que vous fassiez, vous toucherez une aide plus faible quoi que vous fassiez, et si vous voulez le complément, eh bien il faut avoir des pratiques vertueuses pour l'environnement et pour la société. Et malheureusement, cette disposition, elle est quasiment abandonnée, enfin elle est très très faible. Dans les compromis qui ont été adoptés au Parlement européen d'une part et au Conseil de l'Europe d'autre part, au Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire au Conseil des ministres, en fait, c'est compliqué. Il y a la Commission qui fait des propositions, il y a le Parlement européen qui a ses propres propositions, et il y a le Conseil des ministres de tous les États membres qui a les siennes. C'est trois lieux qui ensuite essayent de se mettre d'accord en trilogue. Et on est aujourd'hui à la phase où chacun a sa proposition de nouvelle PAC, et chacune des trois propositions est mauvaise. À la limite, c'est presque celle de la Commission, c'est-à-dire de l'administration, qui est la moins mauvaise. C'est paradoxal, mais. Et il y avait cette possibilité de transférer une partie des aides vers un conditionnement à des pratiques. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart des agriculteurs, si ça existait, ils suivraient. Ce système, cette réorientation des aides de la PAC vers des paiements pour services environnementaux, si c'était adopté, les agriculteurs changeraient de pratique et ils ne rechigneraient pas tant que ça, en fait. Le problème, c'est que les syndicats majoritaires, comme la FNSEA en France, et les ministres, et surtout les lobbies agro-industriels, ne veulent pas que ça change, et ils ont réussi à bloquer cette évolution. C'est aberrant. C'est-à-dire que les agriculteurs, à la base, seraient d'accord pour suivre, mais si on ne leur donne pas cette possibilité, ben, ils ne le feront pas, évidemment. Si on ne leur donne pas la possibilité, si on ne conditionne pas les aides à un changement de pratique, ils ne vont pas changer leur pratique, puisqu'ils n'auront aucun intérêt à les changer. Et là, on passe vraiment complètement à côté d'un levier de changement qui était extraordinaire. Et on prétend que c'est parce que les agriculteurs n'en veulent pas, c'est pas vrai. C'est pas les agriculteurs qui veulent pas des paiements pour services environnementaux. Ceux qui en veulent pas, c'est les lobbies agro-industriels. Et ils sont en train aujourd'hui de bloquer l'évolution de la PAC, et c'est assez catastrophique.
J'avais une dernière question, et puis on va peut-être s'arrêter là. C'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, et c'est une question qui est à la fois simple et complexe, je suppose, à répondre. Est-ce qu'il serait possible de faire de la bio le mode de production majoritaire en Europe et dans le monde d'ailleurs, sans passer par cette industrialisation, en tout cas ce conventionnel sans chimie?
Alors, en fait, le conventionnel sans chimie ne peut pas être généralisé. Le conventionnel sans chimie, c'est quelque chose de très fragile. Parce que ce qui fonctionne dans la bio, c'est d'avoir des cultures associées, c'est d'avoir une valorisation de la main-d'œuvre, c'est d'avoir un écosystème qui va réguler les cultures. Si on n'a pas tout ça, ça ne marche pas bien. Et en fait, c'est d'ailleurs le cœur du malentendu sur le fait que la bio puisse ou pas nous dans le monde. Quand on vous dit, ce qu'on entend souvent, hein, que des études ont montré que la bio, c'est 40% de rendement en moins. Alors déjà, bon, quand on dit 40%, ça veut dire qu'on prend des études qui ont étudié le blé, qui est quand même la culture la plus à l'opposé des techniques bio, donc c'est pas très loyal de prendre celle-là, mais bon, admettons. En fait, sur quoi se basent ces études? Elles se basent sur une comparaison entre un champ témoin et un champ qu'ils appellent bio. Le champ témoin, ils prennent une variété du catalogue officiel européen, c'est-à-dire une variété que les agriculteurs ont le droit de cultiver, dont ils ont le droit de vendre la récolte, plus exactement. Et ces variétés du catalogue, c'est des variétés qui ont été sélectionnées depuis 80 ans, selon un mode de pensée réductionniste, et surtout sélectionnées pour la chimie et l'irrigation. Ces variétés ne fonctionnent que si elles ont en permanence des apports chimiques et de l'irrigation. Donc on prend une variété de ce type, qu'on va mettre dans un champ en culture pure, sans écosystème, et avec le support de la chimie et de l'irrigation. C'est ce qu'ils appellent la parcelle témoin, le champ conventionnel. Puis à côté, ils prennent un champ où ils prennent la même variété pour pouvoir comparer. Donc s'ils prennent la même variété, c'est une variété qui a été sélectionnée depuis 80 ans pour la chimie et l'irrigation, qu'ils vont mettre en culture pure sans écosystème, mais sans chimie. Bah, je pense que vous comprenez bien que, évidemment, ça va marcher moins bien, comme dirait Bourville. Si vous prenez un système qui est fait pour la chimie, que vous enlevez la chimie, ça marche pas. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont appelé la parcelle bio, c'est une parcelle conventionnelle. Conventionnelle sans chimie, oui. Mais une variété sélectionnée pour la chimie en culture pure sans écosystème, c'est la définition du conventionnel. C'est certainement pas la définition de la bio. Donc évidemment, conventionnel sans chimie a moins de rendement que conventionnel avec chimie. En fait, ces études ne prouvent rien. Enfin si, elles prouvent que la bio industrielle ne marchera pas, effectivement. Mais elles ne prouvent rien à grande échelle. En réalité, pour pouvoir comparer réellement, il faut comparer des systèmes. Alors certains agronomes disent, moi j'ai eu des agronomes, des chercheurs de l'INRAE par exemple, qui m'ont dit « Ah ouais, mais on ne sait pas faire !» Alors là, je suis sidéré, parce que franchement, ça fait des décennies que les écologues savent très bien faire, savent très bien comparer des systèmes. On observe in situ, on observe en situation. J'ai un frère qui a travaillé sur l'évolution des populations d'oiseaux en Scandinavie dans le cadre du dérèglement climatique. Vous comprenez bien vous imaginez bien qu'il n'a pas mis des oiseaux dans des cages en chauffant plus ou moins les cages pour comparer. Évidemment que c'est pas comme ça qu'on fait. On va observer les oiseaux avec des milliers de points d'observation à travers la Scandinavie, et ensuite on essaie de modéliser tout ça. Des modèles, c'est utile quand c'est fait avec précaution, et on essaie de comprendre comment ça marche. Eh bien, en bio, il y a des études qui l'ont fait. Il y a une demi-douzaine d'études qui ont été mesurées les rendements réels dans les fermes réelles, la production de biomasse réelle, année après année, et qu'on comparait ce que ça donne. Et en fait, toutes ces études concluent que les rendements sont meilleurs en bio, sauf en Europe et au Canada. Aux États-Unis, déjà, la bio a le meilleur rendement que le conventionnel, mais en Europe et au Canada, effectivement, c'est les seules régions du monde où ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez nous? Parce qu'on a des variétés qui sont pas faites pour être cultivées en bio, parce qu'on ne sait pas pratiquer les cultures associées, parce qu'on a détruit l'interaction entre les écosystèmes et les cultures. Mais dans toutes les autres régions du monde, notamment là où on a encore des semences paysannes et des savoirs de cultures associées, le fait de passer en bio permet d'augmenter les rendements. Et donc, passer en bio l'ensemble de l'agriculture mondiale, puisque l'endroit où on a le plus besoin d'augmenter, c'est pas en Europe, c'est dans les pays du Sud, passer en bio l'ensemble de l'agriculture mondiale, ça marche. Sans défricher un seul hectare, faut arrêter avec ce délire. Ceux qui disent qu'il faudrait défricher plein d'hectares pour passer en bio, c'est parce qu'ils pensent conventionnel sans chimie. Ils pensent pas bio réel, bio au sens agronomique. Et en fait, quand on étudie vraiment ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit que c'est parfaitement possible. Et même en Europe, ça marcherait. Aujourd'hui, on a une étude, enfin depuis 2 ans en fait, une étude qui a été faite par l'IDRI, l'étude TIFA, T-Y-F-A, qui a étudié ce qui se passerait si on passait l'ensemble de l'Europe en bio d'ici 2050. Puis, ils parlent d'agroécologie, mais eux, ils parlent d'une agroécologie qui est plus bio que bio. Hein. C'est vraiment, on supprime toute la chimie, on n'a que de l'élevage à l'herbe, on supprime tout l'élevage industriel, on a des cultures associées, enfin, il faut vraiment un système de bio très très exigeante. Et en fait, ils démontrent que avec la population qu'aura l'Europe en 2050, donc plus qu'aujourd'hui, ça marchera. Ça marchera à condition, bien sûr, de manger moins de viande, parce qu'on en mange trop, à condition d'arrêter d'exporter de la poudre de lait vers les pays d'Afrique, ce qui détruit leur économie agricole. Par contre, on pourra continuer à exporter un peu de fromage, à exporter du vin, vers des productions qui sont liées à un savoir spécifique à la France. Et ça, c'est pas un problème. Et donc, en fait, ça marche.
Oui, et j'aurais une autre réflexion, c'est aussi peut-être aussi à condition de produire en masse aussi des produits industriels transformés aussi. Peut-être que il y a un enjeu là-dessus, c'est-à-dire qu'on consomme des quantités de production agricole monstrueuses pour des biscuits, des choses comme ça, des produits industrialisés, standardisés, transformés, qui d'une part sont mauvais pour la santé, puis qui en plus consomment de l'espace de culture.
Ah oui, complètement. De toute façon, enfin, il y a des produits qui sont, enfin, d'une certaine manière, dans les biscuits, etc. Le bilan n'est pas forcément mauvais, puisque si on les consommait sous une forme non transformée, on aurait aussi besoin des mêmes surfaces pour consommer. Mais par exemple, quand il y a le débat actuellement sur la betterave, où on nous prétend qu'avec la jaunisse, on va perdre 30% du rendement, ce qui est faux, hein. C'est les pertes sur l'année, en fait, vont être de 8 à 10% à peine. Hein. Donc, on nous a menés en bateau en nous prétendant que les rendements allaient chuter. Et on nous dit, eh ben, pour lutter contre la jaunisse, il faut réautoriser les pesticides néonicotinoïdes. On se moque complètement de nous. Parce qu'en fait, la filière betterave française, si elle est en crise, c'est à cause de la fin des quotas, c'est à cause de dogmes économiques néolibéraux. C'est pas du tout pour un problème technique. Et cette crise, c'est une crise de surproduction, en fait. Et en fait, ce sucre, pour la peine, je vous rejoins sur le sucre, autant les céréales qui vont dans les biscuits, elles seraient mangées comme céréales de toute façon, mais le sucre, je suis désolé. Les 3/4 du sucre actuellement vont pour aller dans des produits ultra transformés qui sont nocifs pour la santé. Donc ce sucre-là, ben si on en produit moins, où est le problème? Du moment qu'on le remplace par autre chose et que les agriculteurs gagnent leur vie, il n'y a aucun problème à baisser les rendements en betterave. Donc effectivement, il y a ce genre d'ajustement qu'il faut faire. Et c'est clair que l'élevage industriel consomme aujourd'hui 80% des surfaces céréalières. Ça n'a aucun sens. L'élevage à l'herbe n'est pas un problème ni pour le climat, ni pour l'équilibre alimentaire. Mais en revanche, l'élevage à l'herbe, c'est beaucoup, beaucoup moins d'animaux et donc beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui. Il faut accepter ça. Donc effectivement, il faut changer un certain nombre de pratiques de consommation pour que ça puisse fonctionner. Mais ça serait vrai même en restant en conventionnel. Hein, ce modèle d'élevage industriel, de surtransformation, etc., de toute façon, même en conventionnel, il fonctionne pas. Il a un bilan énergétique négatif. C'est-à-dire qu'on consomme, aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle consomme plus de pétrole qu'elle ne produit d'énergie alimentaire. Ça veut dire que c'est moins efficace que la chasse et la cueillette. Ça veut dire que c'est un système qui, par définition, ne peut pas nourrir l'humanité. L'agriculture biologique, elle a un bilan énergétique positif. Elle utilise l'énergie du soleil. Elle n'utilise pas le pétrole. En réalité, c'est bien plus performant. Mais effectivement, il va falloir rebattre un certain nombre de cartes, c'est clair.
Très bien. On arrive au bout de cette très riche interview. Je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission.
Bah, je vous en prie. Merci à vous de m'avoir invité.
Et je vous dis à bientôt, alors peut-être une prochaine fois, si j'aurai peut-être l'occasion de vous recontacter sur d'autres questions. Je vois qu'en fait, on va dire qu'on tisse des liens vers d'autres choses parce que on parle des céréales, mais c'est vrai qu'on parle pas, on parle d'élevage intensif, on n'a pas parlé du soja. Enfin voilà, il y a plein de questions très très riches qu'on pourra éventuellement aborder des prochaines fois. C'est la fin de notre dossier en 4 parties consacrées à l'agriculture biologique. Encore une fois, un grand merci à Jacques Capla pour ses éclaircissements. Pour écouter l'ensemble de ces émissions très riches, rendez-vous sur studiozef.fr à la page de l'émission La Chose Commune. Dans les différents articles, des liens utiles pour aller plus loin. On se retrouve très vite pour un nouveau dossier. D'ici là, on ne lâche rien et on agit pour la chose commune.